Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui, l'émission discute du forum sur l'universalisme qui aura lieu cette fin de semaine à la Grande Bibliothèque à Berry-UQAM et on parle aussi de l'actualité politique de cette semaine. Le Monde d'aujourd'hui du vendredi 26 avril, Julien Corona au micro, Daniel Fortin comme d'habitude à la réalisation. Aujourd'hui, on a deux invités. Notre première invitée, c'est Muriel Châtelier. Muriel Châtelier, c'est la présidente de l'Association des Québécois unis contre le racialisme, LACUR. Le sigle est très long, LACUR, oui, si vous avez compris le jeu de mots. C'est l'association qui a été cofondée par Muriel et Feu Frédéric Bastien. Donc Muriel en a repris un peu la présidence et la suite, à la suite du décès tragique de l'année dernière de Frédéric Bastien. Décès qui nous a tous marqués ici auprès de beaucoup de membres de la radio qui le connaissaient personnellement et on a toujours une très grosse pensée pour sa famille et ses proches. Muriel, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc avec toi Muriel, on va parler de votre premier colloque de la cure qui a lieu cette fin de semaine, ce samedi 27 et le dimanche 28 à la Grande Bibliothèque de la Banque à Berry-UQAM à Montréal. Donc ce colloque, sur l'universalisme, sur le thème de penser le vivre ensemble québécois au 21e siècle. C'est tout un sujet, tout un gros colloque, mais avant, pour remettre un peu en contexte nos auditeurs, qu'est-ce que c'est la cure?
Mais la cure, c'est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir un vivre ensemble propre à la réalité du Québec et qui est fondé justement sur l'universalisme. Mmh. Et cet organisme-là, c'est en fait une réponse un peu au Québec bashing dont on est témoin depuis quelques années. Donc, on a décidé qu'il fallait prendre action et essayer de promouvoir une vision du vivre ensemble qui nous ressemble et qui nous unit. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup, de controverses, le climat, le climat est assez pollué, disons. Donc, nous, on s'est dit qu'il était temps qu'on ouvre un dialogue sur la question.
Est-ce plutôt un dialogue ou un contre-discours afin un peu de combattre le narratif anti-Québec, anti-québécois, anti-vivre ensemble à la québécoise façon de parler? On a un narratif très multiculturaliste qui va un peu nier la différence québécoise de plus en plus. Et la cure, votre association, elle va proposer un narratif qui permet de combattre ce genre de propos qui est mis de l'avant assez fortement dans certains milieux, comme les milieux médiatiques et universitaires.
Absolument, c'est les deux. C'est effectivement un contre-discours. C'est ce qu'on voulait aussi, c'est faire un contrepoids au discours qu'on entend présentement dans l'espace public. Mais c'est aussi un espace de dialogue parce qu'on sent aussi que les Québécois ont envie de parler, de vivre ensemble, mais d'une façon qui les rejoint. Donc pour nous, c'est pour ça aussi qu'on fait le forum. C'est pour ouvrir cette discussion-là, permettre aux gens de s'exprimer. Et on a organisé plusieurs 5 à 7 depuis qu'on a lancé l'organisme. Et on voit que les gens ont vraiment soif de s'exprimer.
Et ce qui est beau dans ce forum, je suis un peu lié à ce forum, Muriel, pour mettre un peu nos auditeurs au parfum, c'est que je vais pouvoir l'animer un peu. J'ai la chance que tu m'aies proposé de l'animer cette fin de semaine et je t'en remercie. Ça va être une magnifique présentation, un mini-forum, des gens de tous les horizons, de tous les bords politiques aussi, qui viennent un peu discuter de vivre ensemble. Tu vois, ce qui est beau dans cette association qu'on voit, surtout sous le thème de lutte contre le racialisme, c'est qu'on voit des gens de toutes les origines ethniques, sociologiques, religieuses, etc., etc., qui viennent proposer leur vision du vivre ensemble québécoise, une vision interculturelle qui permet de se rejoindre et un peu d'éviter ou d'aller contre cette pression posée par le multiculturalisme canadien, pression écrasante, quasi dogmatique, et de proposer un peu une nouvelle sortie, une porte, une ouverture, une cure, façon de parler.
Oui, ben en effet, puis c'est pour ça que je suis assez fière de notre brochette d'invités qui viennent vraiment de tous les horizons, c'est le cas de le dire. Et c'était vraiment le but aussi de l'événement, c'est de démontrer que malgré nos différences, on peut avoir une culture commune. Pareil, on a un socle commun, donc on a une vision commune. Donc c'était très important pour nous, puis c'est pour ça qu'on a réuni aussi, bon, il y a des intellectuels, il y a des personnes un peu qui sont des personnalités un peu médiatiques, mais on a aussi des citoyens. Pour nous, c'était important d'offrir la parole
à
tout le monde dans la société, tant que la personne, c'est ça, son objectif, c'était de parler, de vivre ensemble de façon positive et constructive. Et c'est pour ça qu'on a vraiment notre recette d'invités est vraiment variée. Je suis très fier de cette diversité.
Bah allons-y sur les invités. On a un David Santarossa qui a ouvert l'année dernière, a sorti un livre extrêmement reconnu sur la pensée woke, qui analysait cette pensée. On a Jean-François Plantan qui est quelqu'un d'origine vietnamienne, qui est beaucoup sur la valorisation du fait français, qui est très actif et que je vous conseille à tous d'aller voir ses travaux, à tous les auditeurs, de pouvoir les suivre et voir et suivre ses travaux. On a Nick Payne, que nos auditeurs on connaît ici à Radio VM, qui anime l'émission Société. On a Dieudonné Elia Oyono, qui est l'ancien président du Parti québécois, qui essaie de faire un peu cette jonction avec entre un discours pro-Québec et les communautés culturelles, afin de montrer que le discours qui met en avant le Québec n'est pas un discours d'exclusion des communautés culturelles. Un peu, donc c'est quand même quelqu'un de bien. On a des Marie-Lou Blanchard, des Isabelle Dion, Kevin Mage-Dusson, Mati Kanakatus Meunier. On a toi, Muriel, qui va être présent. On a Nadia Magrou, qui est très présente dans la critique de l'EDI. Toi aussi, tu l'es, mais c'est quelque chose qui est assez important quand on sait comment les programmes d'équité, diversité, inclusion sont souvent aussi utilisés pour mettre de l'avant ce Québec bashing. On a toute une broche, et Guillaume Rousseau, on vous connaît beaucoup à l'émission, qui participe beaucoup aux commentaires politiques à la radio et à Radio VM. On a beaucoup de personnes qui vont être là pour apporter leur part à ce débat de vivre ensemble québécois.
Oui, absolument. Puis je suis contente de dire aussi que les gens n'ont pas été choisis en fonction soit de leur couleur de peau, soit de leur origine. Donc il y aura des hommes blancs, il y aura des femmes blanches, il y aura des gens de toutes les origines. Donc je suis vraiment contente que nous, on se soit pas arrêté. Justement, aujourd'hui, c'est la tendance d'essayer d'atteindre certains quotas. Ben nous, c'était pas une préoccupation pour nous. Ce qui nous intéressait, c'était d'inviter des personnes qui avaient un propos intéressant à diffuser, qui avait un propos différent à dire justement sur le vivre ensemble, différent de ce qu'on entend dans les médias.
Tu mets de l'avant un peu la couleur de peau, ce genre de choses, ça me fait rebondir sur... J'avais écouté ton entrevue que tu avais faite avec Stéphane Bureau à son balado Contact, sur toutes les histoires qui expliquent que quand tu mets de l'avant ce genre de propos, quand tu mets de l'avant le fait que tu ne regardes pas la race, tu ne regardes pas la religion, les origines sociologiques, tu vois le mérite et comment la personne peut apporter quelque chose au discours, indépendamment de là où elle vient... tu te fais dire que t'es un peu la négresse de salon, excusez-moi d'utiliser ce mot en haine, mais j'ai le droit. Mais tu te fais dire que t'es un peu t'es à la Uncle Tom, comme on dirait aux États-Unis, un peu cette collabo qui va aider les suprémacistes blancs à continuer leur travail de domination, ce genre de choses. Est-ce que ça te choque d'entendre ce genre de choses? Est-ce que c'est rabaissant? En fait, c'est même intellectuellement parlant, c'est extrêmement rabaissant.
Oui, ben au début, ben j'étais quand même assez surprise parce que je m'étais jamais fait traiter de négresse avant. Ben en fait, ça m'est arrivé une fois comme ça dans la rue par quelqu'un qui était un peu saoul, mais de me faire traiter comme ça par des gens qui partagent en plus ma couleur de peau, je dois dire que c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, ça m'a choqué énormément et on continue encore de me traiter de la sorte, tout simplement parce que j'ai une vision plus inclusive du vivre ensemble, parce que pour moi, j'ai des concitoyens de toutes les couleurs. C'est pour moi ce qui est important, c'est le caractère de la personne. Donc, je ne juge pas les personnes en fonction de leur couleur de peau. Je ne comprends pas l'identité d'une personne à travers sa couleur de peau. C'est pas comme ça que j'envisage le monde. Et c'est pas comme ça non plus que je dis souvent que j'ai élevé ma fille, qui elle aussi est un peu choquée de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que moi, c'était très important pour moi dans l'éducation que je lui ai donnée. Qu'elle ait une vision daltonisme racial, qu'elle ne juge pas les gens en fonction de leur couleur de peau. Donc, quand on voit ce retour de la race dans nos débats. Pour moi, c'est vraiment c'est saisissant. Je n'en reviens pas qu'en 2024, on parle autant de la couleur de peau.
Ouais.
Je n'en reviens pas.
Non, mais on partage en plus ce point de vue. Et ce qui est une chose assez intéressante aussi, c'est l'utilisation de l'universalisme dans le cadre de ce forum pour contrer ce genre de discours. Pourquoi avoir choisi l'universalisme? Parce que ça a un poids, l'universalisme, hein, comme terme. C'est pour avoir fait beaucoup de philo. Je suis très kantien dans Emmanuel Kant, dans mon analyse. Et l'universalisme kantien, ce genre de chose, cette idée de commun, cette idée de droit commun avant les droits individuels, cette fait d'utiliser le tout pour lutter contre l'égoïsme et l'individualisme de l'individu. Donc par l'individualisme, on a la racialisation, la sectorisation selon différentes choses. Ça a un poids, c'est important. Pourquoi mettre de l'avant l'universalisme maintenant pour aider à penser le vivre ensemble québécois du 21e siècle?
Mais parce que je pense que c'est une philosophie qui se rapproche beaucoup de l'interculturalisme, de notre vision du vivre ensemble à nous, et qui s'éloigne pas mal de la vision du Canada qui est plus multiculturaliste, donc chacun de son côté, mais on vit les uns avec les autres, mais chacun de son côté. Nous, ce qu'on vise au Québec, c'est plus, on a une vision commune de la citoyenneté. Mmh. Et je pense que l'universalisme, c'est ça, tout autour de l'universalisme tourne autour du commun, et indépendamment de la race, indépendamment du sexe, indépendamment de la religion.
Ouais.
Donc, je pense que c'est important de ramener cette discussion-là dans l'espace public, parce que je pense qu'on a laissé ça aller au profit justement des revendications des groupes militants. Leurs revendications peuvent être légitimes, sauf que je ne suis pas certaine que ce soit la bonne approche qu'on utilise aujourd'hui, parce que toutes les mesures qu'on prend divisent beaucoup plus la société qu'elles ne l'unit. Donc, je pense qu'il est temps vraiment de changer un peu le cours du débat public et puis de ramener ça à nos valeurs, à nous, au Québec.
Mais que dirais-tu pour les gens? Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais si on prend en compte trop ça, l'universalisme, ce genre de choses, cette idée de commun, cette idée de tout, ça peut facilement devenir, ou ça l'est déjà pour ces militants-là, une tyrannie de la majorité. » Que dirais-tu à ces gens? Moi, je suis totalement contre ce genre de constat et tout, parce que je pense qu'il y a un équilibre qui est normal et on partage ce point de vue, Muriel. Mais que dirais-tu à ces gens qui vont dire que mettre en avant l'universalisme, mettre en avant ce genre de choses, c'est imposer la tyrannie de la majorité sur les droits individuels et sur cette sectorisation et sur cette racialisation qui est nécessaire pour le bon respect de tout le monde?
Mais moi, je dirais, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle de la tyrannie de la majorité, mais c'est qui exactement la majorité?
Ouais.
C'est qui? C'est les Blancs? Donc, moi, personnellement, je me définis en fonction de ma culture.
Mmh.
Pour moi, je suis une Québécoise, donc moi, je fais partie de la majorité.
Mmh.
Je partage les valeurs, du Québec, je partage aussi les valeurs de l'Occident en général.
Mmh.
Donc, aujourd'hui, parce que je pense que ces gens-là ont une vision assez réductrice de l'individu.
Mmh.
Et je pense qu'aujourd'hui, il faut voir les choses de façon plus globale. T'sais, le monde a changé aujourd'hui.
Mmh.
Donc, pour moi, j'ai les mêmes valeurs que la plupart des Québécois, puis ma peau, elle est noire.
Mmh.
Donc, pour moi, c'est ça l'universalisme. Et, c'est ça.
Non, mais c'est un magnifique propos et j'invite tout le monde à s'inscrire au colloque, au forum sur l'universalisme qui aura lieu ce samedi et ce dimanche à la Grande Bibliothèque à Berry-UQAM, à la Grande Bibliothèque du Québec à Berry-UQAM. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la Cure et sur le site du point de vente.ca où vous pourrez retrouver le lien qui mène à ce forum. Il y a des inscriptions disponibles soit en vision, soit aussi en présentiel si vous souhaitez vous rendre sur les lieux. Et j'invite tout le monde aussi à participer, à suivre les activités de ton association qui sont des activités extrêmement intéressantes et qui participent beaucoup à ce que j'appelle et ce que beaucoup de gens disent être l'importance du débat dans la cité. Et c'est un magnifique rôle que tu fais et je te remercie beaucoup pour ce que tu fais, Muriel.
Ben, merci beaucoup, Julien.
Muriel Châtelier, présidente et cofondatrice de la CURE, l'Association des Québécoises unies contre le racialisme. Merci beaucoup, Muriel.
Merci.
Notre deuxième invité de ce vendredi, c'est Guillaume Rousseau. Guillaume Rousseau pour commenter l'actualité. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Donc avec toi, on va discuter d'actualité. L'actualité politique, c'est beaucoup de sondages cette semaine. C'est à se faire dire, à faire croire plutôt que le Québec est atteint d'une sondagite aiguë depuis plusieurs semaines. Mais on a maintenant deux gros instituts qui font les sondages politiques, un institut concurrent, donc on a le Léger comme d'habitude, mais on a Palace depuis quelques semaines. Deux sondages sur les intentions de vote qui ont montré des différences. Le PQ reste premier dans les deux, mais c'est qui a la deuxième et la troisième place en fait qui change. Allons-y sur le sondage Léger. Hein. Le sondage Léger qui montre que le PQ a toujours le vent dans les voiles, toujours en tête des intentions de vote avec 34%, la CAQ avec 24%, le Parti libéral avec 15%, Québec solidaire avec 14%, le Parti conservateur avec 10% des sondages. Mais c'est du côté de Palace où c'est intéressant. C'est 31% pour le PQ, 20% pour le PLQ. Est-ce que c'est parce qu'il y a une surpondération de Montréal et des Anglos? Tu vas nous l'expliquer, Guillaume. Et 18% pour la CAQ, 12% pour QS et 10% pour PCQ. Qu'est-ce que ça te fait dire, ces deux coups de sonde de la semaine, Guillaume?
Il y a vraiment deux catégories de partis, si je puis dire, parce que quand même si on a évidemment critiqué un peu les maisons de sondage parce qu'il y avait des résultats différents, puis c'est normal qu'on pose des questions, mais finalement, sur les 5 partis, il y en a 3 pour qui les résultats sont très semblables. Donc, le PQ, un peu au-dessus de 30%, au niveau les QS, autour de un peu au-dessus de 10-12, et les conservateurs autour de 10. Donc, pour ces trois partis-là, les deux sondages sont parfaitement convergents, là, avec vraiment des différences mineures qui remettent pas en question absolument ces sondages-là. Alors, c'est seulement au niveau du Parti libéral et de la CAQ là, qu'il y a des différences importantes. Donc, je pense que ça vaut la peine de le souligner, parce que oui, on peut critiquer les maisons de sondage, puis dans ce cas-ci, la différence particulièrement au niveau du Parti libéral est vraiment très importante, mais quand même, sur les trois autres partis, je pense qu'on peut poser des diagnostics assez clairs, parce que les deux sondages convergent.
C'est ça, allons-y déjà sur la différence PLQ. Il y avait Jonathan Trudeau dans la semaine au 98.5 qui expliquait que cette différence se voit parce qu'on a une forte surpondération des Anglos et de l'île de Montréal dans le sondage de Palace. Mais du côté de Léger, on a un PLQ qui reste quand même à sa position actuelle du moment, 15%. Moi, est-ce que tu penses qu'on est plus proche du 15% côté Léger ou que du fait des propos de Paul Saper-Mondon qui remet vraiment le discours indépendantiste en avant, qu'on a un peu les électeurs libéraux qui commencent à se motiver à retourner au bercail parce que la peur du référendum, la peur du souverainisme fait en sorte que l'effet de vase communicant marche aussi côté fédéraliste?
Ben, en fait, comme les sondages précédents sont plus proches du Léger que du Palace, ben voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est plutôt le Léger là, qui indique bien les appuis au Parti libéral. Mais ce n'est pas impossible que le Palace annonce une tendance qui serait confirmée plus tard par d'autres sondages, voire même par des sondages légers. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. À l'heure actuelle, c'est le Léger qui confirme la tendance, donc c'est à lui qu'on doit se fier. Mais faut rester attentif pour la suite. Peut-être que Palace annonce quelque chose.
Allons-y sur le Léger, 34% pour le PQ, malgré le discours que certains pouvaient critiquer comme alarmiste, violent, ostentatoire, assez fort, là, tel qu'on avait pu dans les diverses critiques. Il n'y a pas eu de perte. Il y a un plafonnement, mais on peut se dire que malgré la séquence, PSPP s'en sort bien. Donc comment analyser la position du PQ actuellement dans l'opinion après la séquence qui vient de se terminer?
Donc c'est une position qui est évidemment plutôt avantageuse. Donc premier, puis là c'est stable effectivement depuis quelques mois. On peut parler de plafond, on peut aussi parler de stabilisation à un niveau relativement élevé. Donc c'est plutôt positif. Le seul côté, peut-être la nuance qu'on peut faire, c'est qu'à 33, 34 dans ces eaux-là, on est tout juste dans la zone majoritaire ou pas tout à fait. En tout cas, on est vraiment à la limite. Normalement, on serait pas en zone majoritaire, mais là dans un contexte à 5 parties, c'est possible qu'on soit en zone majoritaire, mais quand même vraiment tout juste. Donc ça fait en sorte que le Parti québécois va être très attaqué. En premier, on peut penser qu'ils vont être très critiqués. Donc la prochaine élection portera pas seulement sur le bilan de la CAQ, mais aussi beaucoup sur les propositions du PQ, notamment le référendum. Donc à ce moment-là, ça peut donner une campagne électorale plus difficile, où le PQ est beaucoup attaqué. Or, son défi, c'était pas juste de résister aux attaques puis de finir à 32-33%, mais vraiment d'aller chercher le 35-36% qui lui assure une majorité. Donc, dans un contexte où il pourrait avoir un tir groupé des quatre autres partis, ça s'annonce quand même rock'n'roll, même si ça demeure une position enviable quand même.
Et allons-y, oui. C'est, pour eux, ça a l'air d'être un marathon. On voit qu'il y a plusieurs, à chaque 6 mois environ d'ici 2026, il va avoir des présentations sur l'immigration, sur la citoyenneté québécoise, ce genre de choses, ce qui vont permettre un peu de recentrer le discours. Est-ce que tu penses une stratégie de long terme avec de temps en temps des coups de chaud tels qu'on a eu présentement et qui finalement dans les sondages n'ont pas apporté quelque chose de négatif, ont plutôt permis de cimenter la position telle qu'elle est actuellement, avec, on distille des grands points aux 6 mois d'ici 2026, ça pourrait permettre d'étirer un peu cette hausse qui permet de la protéger aussi par une cimentation en même temps. Est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie?
Mais en fait, je pense que c'est la bonne stratégie pour prendre le pouvoir, mais peut-être pas pour le référendum. Je m'explique, c'est que, dans le fond, à 5 partis, pour gagner, il faut mobiliser sa base. Donc, on n'a pas besoin de jouer la grande coalition centriste là, qui va chercher tout le monde, comme on disait dans les années 90, là, c'était la mode, là, qui tous gagnaient au centre. À 5 partis, dans un contexte de polarisation, on n'est plus là. Donc, le PQ se contenter de motiver son monde, donc les 33, 34, 35% de souverainistes, là, c'est dans ces eaux-là, là, l'appui au oui, donc le PQ doit juste mobiliser ces gens-là, et donc aux 6 mois, effectivement, des propositions nationalistes, indépendantistes, va mobiliser, s'assure de sortir son vote, et peut facilement, effectivement, pas facilement, mais peut aller chercher une victoire électorale avec ça, voire une majorité parlementaire, mais c'est le genre de discours, donc, qui permet de mobiliser, sortir son vote, et d'aller chercher la victoire électorale, mais c'est pas évident que c'est le genre de stratégie qui va nécessairement aller chercher plus d'appui au camp du oui. Donc, c'est là où je suis moins sûr. Je suis moins sûr de la stratégie à long terme. Je pense que la stratégie à court-moyen terme est la bonne pour le PQ, pour prendre le pouvoir, mais est-ce que c'est la bonne stratégie pour faire triompher le oui? Ça me semble moins évident. Puis on voit que le oui stagne depuis des mois, malgré les budgets de l'an 1, puis les grands discours offensifs du chef. Là.
La CAQ à 24%, est-ce qu'ils ont arrêté l'hémorragie? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent un peu commencer à construire sur ça, parce qu'on sait qu'à la CAQ, à l'interne, ça se dit, ils voient au long terme. Ils se disent qu'ils ont fait des politiques qui vont commencer à porter leurs fruits si tout marche bien dans les prochains mois. À partir de là, ils se disent qu'en tenant un discours, en évitant les bourdes, et au moment où ces politiques commenceront à porter les fruits, les gens comprendront et donc là, reviendront à la CAQ. Comment tu vois les choses comme ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne vision des choses?
Moi, je suis pas sûr, parce qu'au niveau de la santé, de l'éducation, même si je pense qu'il y a des bonnes décisions qui sont prises, particulièrement en éducation, bon, santé, là, j'avoue que j'ai pas une opinion forte là sur la réforme des structures et tout, mais éducation, il y a vraiment un certain nombre de bonnes positions, de décisions qui ont été prises, mais malgré ça, c'est tellement complexe, c'est tellement gros, c'est tellement des effets de la démographie, finalement, c'est le vieillissement de la population, c'est la surabondance d'immigrants dans les écoles.
Les gens veulent les services aussi.
C'est ça, c'est tellement des gros problèmes qui résultent de méga phénomènes démographiques que même les meilleures réformes peuvent difficilement vraiment améliorer la situation de manière notable pour les électeurs, les bénéficiaires de services publics. Donc, je pense pas nécessairement que naturellement la CAQ va remonter parce qu'il va avoir des résultats faramineux en éducation et en santé. Alors, c'est plus du côté des dossiers identitaires, constitutionnels qu'il faut regarder là, qu'est-ce qui s'en vient du côté de la CAQ.
Est-ce que tu penses que ces dossiers aussi pourraient jouer sur les deux autres partis en arrière? 15% pour le PLQ, 14% pour QS, parce que là, si on prend le PQ, 15%, pour rester sur le sondage léger, le PLQ est sans chef, a pris un point depuis le dernier sondage, et peut se dire, ah ben on a 15%, on est sans chef, quand on aura un chef qui permettra d'avoir une bonne discipline, et tout ça, on pourra avoir une marge de progression. Mais du côté de QS, on a des dossiers qui pourraient peut-être les aider, tel le logement, on a des dossiers identitaires qui pourraient se dire « Ah, ça va trop loin, on va chez QS qui est plus tranquille sur ça ». Ils stagnent, mais même encore pire, c'est qu'ils perdent des points, quitte à se dire « Est-ce que bientôt ils seront au même niveau que le Parti conservateur ?» Ils vont être aussi mis de côté et être un peu inoffensifs, tel que le NPD l'est sur la scène fédérale aussi au Québec.
Oui, tout à fait. Moi, je place effectivement QS et les conservateurs dans la même catégorie, donc dans les partis là, autour de 12%. Mm. Et la raison, c'est que je pense que dans les deux cas, ils font l'erreur d'avoir des positions très tranchées sur les questions socio-économiques. Donc le logement, l'environnement, vraiment très, très à gauche pour QS, très, très à droite pour les conservateurs. Alors que sur les questions d'identité, langue, laïcité dernièrement, bon, la disposition de souveraineté parlementaire et tout, QS, finalement, a des positions un petit peu mitoyennes, là. Sur le 96, sur comme je vous disais, le renouvellement de la disposition de souveraineté parlementaire de la loi 21. Puis les conservateurs aussi, sur l'identité, bon, sont contre la loi 96 et pour la 21. Donc, ça, je pense que c'est, dans les deux cas, c'est une combinaison perdante. Moi, je pense que les Québécois ne sont pas là. Je pense que les Québécois sont sur des solutions pragmatiques en matière socio-économique. La crise du logement, ça se fera pas juste avec du social, puis de l'État qui taxe puis qui subventionne. Ça se fera pas non plus en misant juste sur le privé et les propriétaires et la déréglementation. Donc, c'est des solutions pragmatiques. Ces deux partis ne le sont pas, alors que les Québécois, je pense, le sont sur les questions socio-économiques, environnementales. Alors qu'au contraire, sur les questions identitaires, là, je pense que les Québécois ont des opinions plus claires. En tout cas, chez les francophones, il y a vraiment une volonté qu'il y ait des politiques plus affirmées. Mmh. Et le QS et le PCQ sont pas là. Alors, c'est ça qui les tue dans les deux cas. Là, on n'a pas le bon positionnement. Mmh.
Est-ce que le pragmatisme des Québécois, c'est aussi ça qui fait en sorte que 2/3 des Québécois voteraient oui si François Legault déclenchait un référendum sur les rapatriements des pouvoirs en immigration, mais les électeurs n'ont aucun appétit, aucune envie d'avoir un tel référendum? Est-ce que c'est aussi pour ça que... Est-ce qu'on peut analyser ça sous l'angle pragmatiste des Québécois et un peu envie de pas se mouiller? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est assez drôle?
Oui, effectivement, mais il y a plusieurs choses, mais je pense que les hypothèses sont, d'une part, ça peut être la question des coûts, c'est quand même pas gratuit un référendum. Il y a la question de la possibilité de le perdre. Ouais. Je pense que c'est pas exclu, même si là, effectivement, puis là, évidemment, les gens ont répondu au fait qu'ils ne souhaitaient pas de référendum sur l'immigration sans savoir qu'il y avait l'appui aux 2/3. Ouais. Donc, parce que les deux questions étaient dans le même sondage. Donc là, est-ce que à la lumière de l'appui des 2/3, ça va augmenter l'appui à l'idée du référendum? Peut-être. Mais le risque de le perdre m'apparaît quand même réel, même si à 2/3 de oui contre 1/3 de non, ça paraît gagné d'avance. Mais je pense que c'est pas nécessairement des scores très très rigides. C'est pas comme le camp du oui, le camp du non sur le référendum dont on débat depuis 50 ans. Donc, à un moment donné, ça peut bouger les aiguilles, mais ça reste assez solide. Là, c'est un nouveau débat. Ouais. On sait pas c'est quoi la question référendaire. On sait pas qui serait le camp du oui, qui serait le camp du non, quels seraient les grands arguments. Donc, il y a toute une part d'insécurité là-dedans, d'incertitude. Alors, je pense que c'est la prudence, peut-être aussi effectivement du pragmatisme de la part des Québécois là, par rapport à ça. Et c'est peut-être tout simplement une envie que les politiciens mettent leurs culottes et règlent les problèmes.
Je pense pas
que les Québécois ont envie qu'il y ait des négociations avec le fédéral, puis qu'il y ait des consultations. Je pense que les Québécois veulent de l'action. C'est un peu le succès de Paul Saint-Pierre Plamondon avec son abolition du serment au roi. Il y a pas fait des consultations, il n'en a pas parlé, il a agi. La CAQ était populaire du temps où ils agissaient, loi 21, loi 96. Alors moi, je perçois les Québécois comme souhaitant que leurs élus agissent plutôt que de faire des consultations et des négociations.
Guillaume Rousseau, directeur des programmes en droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke et professeur aussi à la Faculté de droit. Merci beaucoup d'être avec nous, comme d'habitude, pour commenter l'actualité politique. On avait Muriel Châtelier en première partie de l'émission. Tu seras au colloque au Forum sur les nouvelles socialistes demain, et donc j'invite aussi les auditeurs à prendre un pour pouvoir y assister, pour pouvoir aussi t'écouter, te parler de modèles d'intégration et de vivre ensemble au Québec au 21e siècle. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle fin de semaine aux antennes de Radio FM et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.